Good Morning Business, le grand débrief.
Le grand débrief aujourd'hui avec François Cholet. Bonjour. Directeur général Monségur Finance, Mathias Bacino, directeur général France de Trade Republic. Bonjour. Et Benaouda Abdedaïm qui nous rejoint, qui était avec nous déjà tout à l'heure. Un mot de la Fed, de la hausse des taux. La hausse des taux qui va arriver, c'est prévu pour demain à partir de 20h. Nouvelle hausse des taux à attendre. On a eu un prix Nobel de la paix qui s'est exprimé
de l'économie, pas du tout de la paix.
Pas encore en tout cas, nous dira Benaouda, parce qu'il n'aime pas la paix, justement. Il met le bazar un petit peu au sein des économistes. C'est Joseph Stiglitz qui considère que lui, cette hausse des taux, c'est comme une saignée. On l'écoute.
Cela me rappelle ce qui se passait au Moyen-Âge, la saignée. Lorsque l'on faisait une saignée à un patient, généralement, il ne guérissait pas, sauf miracle. Alors, on le saignait encore plus et sa santé s'aggravait d'autant plus. Je crains que les banquiers centraux soient en train de faire la même chose en ce moment.
Les banquiers centraux sont-ils en train de nous saigner, de saigner l'économie, François Cholet ?
Difficile de contredire un prix Nobel. Pourtant, Jean-Marc Daniel l'a fait sur votre antenne ce matin.
Bah, il était d'accord avec lui. Hein. Il disait que c'était peut-être la hausse de trop. Ça servait à rien.
La hausse de trop, attendez, on n'est pas encore en territoire restrictif. Les taux directeurs sont très largement inférieurs à l'inflation. Et le cœur du message des banquiers centraux aujourd'hui, c'est garder de la crédibilité face aux anticipations d'inflation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont vraiment tardé. Ils sont très en retard. Ils arrivent peut-être effectivement bien trop tard dans cette hausse des taux par rapport à l'avancée du cycle économique. Mmh. En revanche, il y a un point pour lequel ils n'ont pas encore perdu toute crédibilité, c'est que les anticipations d'inflation à 5 ans sont encore très mesurées. On parle de 2,5%. Et ça rend encore possible des taux long terme donnés par le marché, et non pas par les banques centrales, qui sont encore acceptables par l'économie. Ça veut simplement dire que les taux sont à peine en territoire positif à 10 ans aux États-Unis. Ils sont encore très largement négatifs à 10 ans en Europe en termes réels. Et c'est ça qui est la clé. Ouais. On entendait ce matin le chiffre sur le taux d'emprunt pour les ménages américains sur l'immobilier.
6%. On est à 6% en 30 ans.
Ça, c'est la réalité de ce qui va freiner le marché de l'immobilier américain. Si vous avez des taux d'intérêt à 10 ans, aujourd'hui entre 3,5 et 4%, et des anticipations d'inflation autour de 2,5% qui soient à peu près respectées par les banques centrales, vous n'êtes pas sur un frein majeur sur l'économie. C'est pas ça qui pose le problème.
Mathias Bacino, cette hausse des taux donc attendue, est-ce qu'elle est acceptable par les marchés ? Est-ce que c'est encore, effectivement, vous considérez que ça fait partie du jeu des banques centrales et qu'il faut absolument casser les anticipations d'inflation à moyen terme, ou est-ce qu'elle vous fait peur ?
En fait, les marchés sont le reflet de l'économie, et donc là, ils ont commencé, on le voit depuis quelques jours, la situation se tend, il y a vachement plus de nervosité,
ah oui.
Et on a commencé à baisser significativement sur le CAC 40 ces derniers jours, donc on sent qu'on est au bord de quelque chose. La Banque centrale allemande, ouais, a fait part de ses inquiétudes pour la croissance, le chômage, il y a quelques jours. La Banque mondiale a alerté pour l'impact de cette politique monétaire qui se resserre sur les marchés émergents, sur les populations des marchés émergents, l'impact que ça peut avoir. Donc, les signaux d'alerte se multiplient et on note que le ralentissement de l'économie mondiale est extrêmement prononcé actuellement.
Ça veut dire qu'on ne peut pas exclure un nouveau décrochage des marchés ? Finalement, on a eu un crack mou, est-ce qu'on pourrait avoir un crack dur ?
L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Ouais.
Vous parliez du prix Nobel de la paix, Stiglitz, tout à l'heure.
De l'économie.
Toujours pas la paix.
moi, je repense au film de la haine, avec toute cette colère sociale qui pourrait, ouais, monter.
Votre la haine, il y avait cette phrase, jusqu'ici, tout va bien, vous
exactement
le savez, en train de tomber. Hein.
Exactement. Et donc, pour moi, c'est le sentiment que j'ai actuellement.
C'est pas très encourageant, ce que vous dites. Là. On est en train de tomber, on dit tout va bien, quoi, c'est ça ?
Et alors, tout va bien. Oui, à mon sens, parce qu'on va peut-être challenger un petit peu les méthodes de gouvernance des banquiers centraux, puisque leur politique monétaire depuis une dizaine d'années ont pour le moins causé des difficultés.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec François Cholet ? Vous dites qu'il faut arrêter d'augmenter les taux quand vous dites challenger ?
Je dis qu'après, une fois que l'économie mondiale sera un peu calmée et que l'inflation sera sous contrôle, il faudra se poser des questions sur comment on en est arrivé là et quelle gouvernance on peut imaginer pour que les intérêts des particuliers soient davantage...
Vous allez loin, là. Vous voulez faire quoi ? Vous voulez virer les banquiers centraux ?
Non, mais les jeunes, j'ai la chance d'être au contact de la génération Z au quotidien. Et les jeunes considèrent que les banquiers centraux ont échoué et que la gouvernance verticale des banques centrales n'est plus la bonne pour l'avenir. Donc c'est de la prospective tout ça, mais je mets ça sur la table sous l'angle de la jeunesse.
Belaouda, est-ce qu'il y a une remise en cause comme ça dans le monde déjà de la crédibilité, de la légitimité des banques centrales,
De l'opportunité d'agir, en tout cas, par Joseph Stiglitz, qui fait partie de ces prix Nobel d'économie américains qui ont depuis longtemps le sens de la formule journalistique, d'où l'intérêt de ce bout d'interview, parce que dans une autre partie de l'interview, il explique très clairement que le dérapage inflationniste a davantage pour source les hausses de prix énergétiques et alimentaires et les distorsions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement qu'une demande excédentaire, et que de ce fait, ce sont des phénomènes contre lesquels les banquiers centraux ont un champ d'action beaucoup plus réduit. Et c'est sa thèse. Et l'autre partie de sa thèse, Joseph Stiglitz, qui est aussi un ancien économiste en chef de la Banque mondiale, c'est que, somme toute, ce ne sont ni les Américains ni les Européens qui en souffriront de cette situation de hausse simultanée des taux d'intérêt, mais les économies en développement et les marchés émergents. Il n'y a qu'à voir à ce titre le rapport de la Banque mondiale qui a été publié vendredi dernier, où David Malpass, le président de la Banque mondiale, parle de conséquences dévastatrices pour les économies en développement, mais pas pour les États-Unis, pas pour l'Europe.
Ça veut dire qu'il fait une critique forte pour exister, c'est ça que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on l'entende ?
Non, il n'a pas besoin qu'on l'entende. Il a fait fortune scientifique et fortune tout court depuis longue date. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de montrer que l'action des banquiers centraux actuellement n'a pas de consistance face aux défis des ruptures des chaînes d'approvisionnement qui sont d'une toute autre ampleur par rapport à ce que ce sur quoi peut agir une banque centrale.
Alors François Cholet, ce matin, vous êtes le seul à défendre les banquiers centraux.
Oui, alors le défi face à la jeunesse, c'est effectivement d'expliquer aux jeunes que les taux zéro, l'argent gratuit, ça n'est pas quelque chose qui était soutenable à long terme.
Et ils connaissent quasiment rien d'autre.
Et ils n'ont jamais connu
l'inflation en plus.
Mathias, vous ne savez pas que l'argent gratuit n'existe pas.
Et nous avons besoin dans nos économies d'une échelle de temps. On a besoin de pouvoir actualiser des flux futurs à une valeur d'aujourd'hui. Et c'est ce que produisent les taux d'intérêt. Ça permet d'imaginer de l'argent placé à différentes échelles de temps et à leur donner une valeur aujourd'hui ou une valeur à terme d'ailleurs. Et donc c'est une perte de repère qu'on a eue pendant maintenant de nombreuses années. Et c'est un changement de paradigme complet. Quand on reçoit nos clients aujourd'hui dont on gère l'épargne, on leur dit... Ce qu'on vous disait il y a 6 mois, qu'il y a notre incapacité à prendre de l'argent et placer de la trésorerie à des taux rémunérateurs, à avoir des contrats, c'est-à-dire des obligations dans lesquelles on a des flux certains et qui vont vous donner telle rémunération positive, c'était quelque chose qu'on était dans l'incapacité de faire. Aujourd'hui, on a retrouvé, grâce au marché, cette capacité.
C'est intéressant l'interpellation de Mathias. Que Mathias, vous leur dites, oui, mais nous, on a été biberonnés à l'argent gratuit, aux crypto-monnaies. Donc, au fond, votre vieux système de banquiers centraux, faut peut-être l'oublier.
Je dis simplement que c'est un débat qui vient et qu'il y a un choc générationnel. Il y en a beaucoup actuellement des chocs générationnels, mais celui-là est très net. Et donc, entre un mode de fonctionnement davantage horizontal...
Centralisé ?
Décentralisé, justement. Ouais. Bah, face au mode de fonctionnement très centralisé, où on attend la parole très verticale comme ça, d'un président de banque centrale, c'est quelque chose qui, chez les moins de 30 ans, ne fait pas écho.
Il faudrait peut-être que d'abord ce vieux monde s'effondre avant de pouvoir laisser la place au nouveau.
Le nouveau monde n'a pas oublié les taux d'intérêt. C'est-à-dire que le Bitcoin et toutes les blockchains, etc., faisaient des placements avec des taux. Quand vous cidiez de l'argent sur ces plateformes-là, ils vous rémunéraient plutôt grassement par rapport aux taux qui étaient pratiqués par les livrets d'épargne. Donc, clairement, ils n'ont pas oublié les bonnes vieilles règles de l'économie de base, les jeunes.
Ils les redécouvrent, en partie, c'est vrai, avec les crypto-monnaies et cet écosystème-là. Leur réaction politique, parce que, in fine, on parle d'inflation, on parle de chômage avec la récession, on parle de tant d'éléments qui annoncent probablement des difficultés sociales. Et ça, la gouvernance des banques centrales n'en tient pas compte. Peut-être devrait-elle le faire.
Après, on a toujours accusé les banques centrales de tous les maux, ça c'est pas nouveau, hein. Ça fait longtemps. Benaouda.
À ce titre, encore une fois, c'est une autre étude qui a été publiée hier par le FMI, par 4 économistes, qui démontre une corrélation exacte entre la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis dans les zones rurales la tendance à licencier très rapidement.
Ah oui.
Et puis
corrélation entre
corrélation et recruter de nouveau lorsque les taux d'intérêt baissent. Donc, il s'annonce aux États-Unis de ce point de vue-là des jours difficiles.
Alors, jours difficiles. Écoutez, le chiffre vient de tomber. On attendait le chiffre de l'inflation des prix à la production en Allemagne, on s'attendait à un chiffre apocalyptique de 37%. Finalement, c'est 45,8%, l'indice des prix à la production de biens industriels, plus 45,8%. Et sur un mois, comme quoi le phénomène ne se décélère pas, on est à 7,9 alors qu'on attendait 1,6. C'est quand même un chiffre qui fait froid dans le dos quand même, François.
C'est la responsabilité des banques centrales aujourd'hui de montrer qu'elles ont le pouvoir sur l'inflation, quitte à ralentir l'économie. N'oublions pas malgré tout que chaque fois qu'elles remontent les taux comme cela, ça donne autant de paliers aussi pour desserrer la bride si à un moment donné les marchés se mettent à paniquer ou si l'économie se mettait à ralentir de manière un peu trop forte. Chaque degré supplémentaire de hausse de taux enregistré, c'est autant de capacité à rebaisser les taux pour refaciliter et redonner un signal positif au marché.
Le monde change, j'entends des choses. Oui, mesdames.
Sauf que la semaine dernière, le ministre de l'économie allemand a expliqué que le G7 devait s'attaquer dorénavant aux chaînes d'approvisionnement chinoises. Ouais. D'ailleurs, les Chinois lui ont répondu que maintenant on va mesurer les forces de chacun. Ouais. Et le président de la Chambre de commerce et d'industrie allemande, la DEHK, a expliqué que l'économie allemande était déjà tellement fortement touchée par les perturbations des chaînes d'approvisionnement qu'ajouter cette notion qu'il faut remettre en cause le poids de l'économie chinoise dans les relations internationales, ça va se payer notamment par cette explosion des coûts d'approvisionnement.
La réunion de la Fed, bien sûr, c'est à suivre sur BFM Business. La décision, ça sera demain à 20h. Puisqu'on parle du monde qui change, on entend des choses étonnantes et même des choses étonnantes de la part d'Augustin de Romanet, patron d'ADP. Il était hier avec Edwige Chevrillon. Il parle de la baisse du trafic aérien. Il dit que finalement, c'est pas si grave. On l'écoute.
Si demain matin, le trafic aérien devait décroître, ça n'est pas une tragédie existentielle pour nous. Je ne me mettrai jamais en travers de ceux qui veulent avoir des comportements plus responsables. Je pense qu'il faut être aussi raisonnable que possible dans ces comportements pour la période de transition qui va durer à peu près 20 ou 30 ans et qui ne doit jamais nous faire oublier que sur le long terme, c'est le transport aérien qui va être le système le moins émetteur de CO2.
Ça, c'est pour le long terme, mais pour le moyen terme, 20-30 ans, il dit qu'il faut au moins prendre l'avion pour un président de plateforme aéroportuaire, c'est quand même un sacré paradoxe. Après, c'est peut-être très raisonnable. Enfin, c'est la décroissance qui nous attend là.
Ça ressemble à de la décroissance. On vient de vivre un choc et un contre-choc sur le transport aérien absolument historique. C'est un des métiers les plus cycliques. On voit quelle est la difficulté, notamment des compagnies aériennes, à exister dans la durée, à gagner de l'argent, puisqu'on a des faillites très régulières. Et en France, on n'a pas eu le cas parce que l'État est venu systématiquement à la rescousse d'Air France. Mais c'est un métier extrêmement difficile pour les investisseurs, le transport aérien. C'est pas des métiers qui gagnent de l'argent. Clairement, c'est étonnant de voir un tel discours de la bouche de M. de Romanet. C'est assez surprenant.
Mathias Blatino, puisque vous incarnez ce matin la génération des moins de 30 ans, des aides, est-ce qu'ils prennent moins l'avion? Est-ce qu'ils vont moins prendre l'avion? Est-ce qu'ils vont être décroissants?
Moi, je suis très directement donc avec Trade Republic. On a des bureaux un peu partout en Europe.
Ouais.
Il y a effectivement toute une série d'employés qui ne prennent pas l'avion. Donc des jeunes de 25 ans qui préfèrent prendre 9 heures de train pour faire Berlin-Bruxelles plutôt que de prendre l'avion. Donc la référence culturelle est en train de changer. Et le discours de Monsieur de Romanet, c'est ça. C'est la référence culturelle qui est en train de changer. Il essaye d'ajouter du goodwill ou de la valeur de marque, entre guillemets, à ADP avec un discours positif. Ça peut
c'est
être
plutôt bien joué, en fait, génération. Sur le plan marketing. Benaouda.
C'est en tout cas particulièrement original. J'essaie vraiment d'écouter ce qu'il dit parce que il prend pas la décroissance, il prend la décroissance pour les privilégiés, c'est-à-dire les économies développées, ce qui est une grande nuance. Il explique que ce sont les clients des marchés émergents qui peuvent prendre le dessus en termes de flux et que c'est quelque chose de normal. Et cette notion qu'il y a des privilégiés et les privilèges doivent changer de main, c'est très rare de l'entendre dans la bouche d'un PDG en place. Parce qu'après, lorsqu'ils quittent leur fonction, comme par exemple le PDG d'Unilever la semaine dernière, qui a tenu à peu près ce discours, on l'entend beaucoup. Mais que ce soit un PDG en place qui le fasse, c'est extrêmement rare. Et de ce point de vue-là, on sent une forme de passage de témoin aux marchés émergents qui est acté dans la bouche d'un PDG d'un aéroport... d'un des principaux plateformes aéroportuaires d'Europe.
C'est absolument fascinant, hein, tous ces bouleversements qu'on est en train de traverser. On verra si c'était vœux pieux ou effectivement si ça sera structurant pour notre économie et l'économie mondiale.
La matinale, ça se réécoute en replay, en podcast. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous et réécouter l'interview d'Augustin de Romanet aussi, qui était donc hier chez Edwige Chevrillon.